Je m'adresse aujourd'hui à vous tous, francophones de par le monde, à vous en Suisse, en France, en Belgique, à vous aux Antilles, à vous en Afrique, bref, à tous ceux qui sont membres de l'Église de Dieu, de par le monde, et que Dieu a appelés pour une raison, pour une bonne cause. C'est comme une famille qui se réunit après une longue séparation. C'est comme des frères et des sœurs qui se retrouvent sans avoir vraiment compris pourquoi ils étaient séparés. Vous savez, je me rappelle la première conversation que j'ai eue avec M. Herbert Armstrong. Lui, il cherchait pour ambassadeur collège un professeur de français. Donc, je m'étais présenté. Tout d'un coup, au milieu de la conversation, il me dit « Savez-vous pourquoi vous êtes né ?» J'étais ébahi. Je ne comprenais pas pourquoi cette question. Non, je ne savais pas pourquoi j'étais né. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Tout ce qui m'intéressait à l'instant, c'était si je me qualifiais à ce poste ou non. Cela date maintenant de plus de 50 ans. Je n'avais jamais pensé à cette époque-là qu'un jour, non seulement je serais membre de la faculté du collège, mais encore que je serais membre de l'Église de Dieu vivant et que je serais en plus un ministre dans cette Église-là. Comme la vie est différente, comme l'échange, que de souvenirs, que de changements. Je me rappelle encore de la même façon ma première rencontre avec M. Jean Carion. J'étais à Paris en train de faire des visites à ceux qui me demandaient, quand j'étais le speaker de la radio, de l'émission Le Monde à venir. M. Carion, au téléphone, me dit « Écoutez, vous êtes à Partian ?» J'ai dit « Oui, je suis à Partian. » Il dit « J'ai besoin de vous rencontrer. » J'ai dit « Bon, je n'ai pas le temps maintenant. »« Si vous avez le temps. » Alors, il me dit « Je vous retrouve dans quelques heures parce que je peux prendre l'avion prochain. Je serai à Paris dans 2 ou 3 heures. » J'ai dit « Écoutez, je n'ai pas le temps. » Il me dit « Je n'accepte pas d'excuses. J'ai besoin de vous voir. Je suis un homme occupé. Mon temps est très chargé. » Je vous retrouve au Maxime pour le déjeuner. Vous savez, j'étais sidéré. Moi, on me parle comme si j'étais déjà obligé à dire oui à toutes les conditions qu'on me posait. Et voilà que tout d'un coup, il raccroche. Je ne savais pas ce qui se passait. M. Carion n'a accepté aucune excuse de ma part, aucun argument. Il voulait absolument me rencontrer à Paris. Et je n'avais pas de choix. Ça date aussi de plus de 50 ans. J'étais aussi un peu, je dirais, inquiet de savoir à qui j'ai affaire. Mais quel est cet homme qui me pose des questions, des conditions même, et me dit, je vous retrouve, je ne vais pas chercher des excuses. Voyez-vous, la vie est pleine de changements, pleine de surprises. Nous savons tous. Dieu avait en sorte que je puisse vraiment annuler mes rendez-vous ce matin-là et que je puisse donc rencontrer ce monsieur qui s'appelait Jean Carion. Je me demandais quelle serait sa réaction en me rencontrant. Alors, on s'est retrouvés chez Maxime. Il a commencé à me regarder, puis comme si il se demandait comment j'étais. Et je me demandais moi-même, est-ce que je le surprenais, est-ce que je le dégoûtais ou bien je ne sais quoi. Ensuite, tout d'un coup, au milieu du dîner, il m'a dit, vous savez, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Je veux savoir pourquoi nous sommes nés, comme M. Armstrong l'avait dit. Ensuite, il dit, je veux savoir ce que c'est que le but de la vie. Ensuite, il m'a demandé des choses que je me suis dit, mais qu'est-ce que cet homme veut vraiment savoir? Qu'est-ce qu'il veut avoir? Qu'est-ce qu'il demande? Il voulait savoir la différence entre les églises du monde. Écoutez, on était en train de manger. J'avais très peu de temps, lui aussi. Il voulait que je réponde à toutes ces questions sans argument, avec précision directe. Ça, c'est Jean Carillon, pour vous qui le connaissez. Depuis cette époque-là, une grande amitié s'est formée entre M. Carillon et moi. Nous sommes devenus comme deux frères. J'avais jamais pensé, et je ne pensais pas du tout, qu'un jour lui aussi serait membre de l'Église de Dieu, que lui aussi serait membre du ministère, qu'il serait, avec moi, évangéliste. La vie est pleine de changements, pleine de surprises. Nous autres, dans l'Église de Dieu, nous en avons toutes les preuves. Mais je sais aussi que, en tant que membre de l'Église de Dieu, nous avons un grand ennemi. Un ennemi commun à tout le monde, mais surtout à ceux qui aiment Dieu et qui obéissent à ses commandements. Satan, le diable, sème le doute. Il veut diviser les membres de l'Église. Il est après nous autres, puisqu'il est après les autres de par le monde, car les autres ne l'intéressent pas. Ce que Satan veut détruire, c'est ce que le Christ construit en nous, en tant que membre éventuel dans la famille divine. Satan, le diable, fait tout pour semer le doute dans l'esprit de ceux que Dieu appelle. Satan, le diable, ne va pas s'arrêter devant aucune excuse. Mais Satan, le diable, accuse tous. Il est plein de calomnies, d'accusations qui divisent les amis, qui divise les membres de l'Église. C'est ce qui s'est passé à l'Église du Dieu vivant à travers les siècles. C'est ce qui s'est passé lors de l'administration de M. Armstrong, et plus tard, d'autres, et aujourd'hui, ce M. Meredith, et ainsi de suite. Il n'y a rien d'étonnant puisque Satan a pour but et a eu même le même but lorsqu'il a attaqué le Christ il y a quelques 2000 ans. Et oui, Satan s'est servi des mêmes tactiques. Quelle a été la réponse du Christ? Comment, à cette époque-là, le Christ a fait face aux attaques de Satan? Notez-le, c'est très simple. Évidemment que le Christ avait une force surnaturelle, une force basé et formé par la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, est la force dont nous avons besoin et c'est la seule force qui peut vraiment nous donner toute la force dont nous avons besoin, toute, je dirais, l'assurance pour pouvoir tenir le coup. Notez-le. Lorsque le Christ était sur cette terre pour la première fois, il était dans le désert, et laissez-moi citer plutôt ce qui s'est passé, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Nous lisons, « Jésus fut amené par l'Esprit, dans le désert, pour être tenté par le diable. » Autrement dit, Dieu savait déjà que Satan allait tenter le Christ. Et le Christ était préparé. Notez-le, verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, était préparé. Il avait faim. La Bible dit que le Christ était affamé. Satan se prépare, verset 3, il s'approche de lui, il dit, regardez, il commence par des doutes. C'est ça qui est dangereux, car dès le commencement, des doutes sont plantés dans l'esprit des gens. Et Satan voulait même planter ses doutes dans l'esprit du Christ. Il dit, si tu es fils de Dieu, Satan le savait, le Christ le savait, pourquoi mettre ce doute dans l'esprit du Christ? Matthieu 4, verset 3, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ridicule. Dieu peut tout faire. Christ aurait pu lui dire, écoute, tu sais fort bien que je suis fils de Dieu, mais il n'a pas fait ça. Le Christ répondit, verset 4, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, l'Écrit cite la Bible de la bonne façon, tandis que Satan cite la Bible, et il connaissait sa Bible aussi, de la façon pour détruire la foi du Christ. Le diable, verset 5, le diable le transporta dans la ville ensuite et le plaça sur le haut du temple. Il dit la même chose, si tu es fils de Dieu. Ensuite, garde voir cette tentation, jette-toi en bas, car il est écrit, et c'est vrai, Dieu le Père donnera des ordres à ses anges, à son sujet. Et pour les anges le porteront sur les mains, de peur que ton pied se heurte contre une pierre. Voyez-vous, c'est écrit, c'est ça. Mais Satan tâchait de tenter le Christ en mettant des doutes dans son esprit. Et le Christ a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ensuite, le diable le transporte sur une montagne très élevée. Il lui montre, ça c'est très intéressant, les royaumes de ce monde. Les royaumes de ce monde et leur gloire. Et il dit quoi ? Il dit quelque chose qui vraiment surprend aujourd'hui tout le monde. Il dit, je te donnerai. Si c'est le cas, donc Satan avait la puissance, le pouvoir d'avoir ces royaumes de ce monde. Il les a encore aujourd'hui. Il dit, si tu te prosternes et tu m'adores. Là, c'est un peu trop fort. Qu'est-ce que le Christ a dit ? Voyez-vous, lorsque la tentation va jusqu'au bout, vous devez avoir la force pour vraiment résister. Et c'est vrai aujourd'hui avec nous tous. Si vous avez des doutes plantés par Satan ou n'importe qui, alors voyez la réponse du Christ. Il a dit, verset 10, « Retire-toi, Satan. » C'est cette attitude dont nous avons besoin tous. Chassez les doutes, chassez les idées de Satan. Le Christ a dit, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan s'est éloigné du Christ. Il reviendrait, il le savait, mais c'est comme ça que le Christ a pu vaincre les tentations de Satan. Le Christ a pu réussir. Parce que lui, il n'a pas cédé aux accusations, aux mensonges, aux doutes de Satan. Le Christ a agi avec le Saint-Esprit comme vous et moi, nous devons toujours agir. L'Église de Dieu, ces derniers temps, a vraiment eu des attaques fantastiques de la part de Satan. Certains d'entre nous ont succombé, d'autres ont tenu le coup. Rappelez-vous que le Christ est le chef de l'Église, que le Christ est celui qui nous guide, que le Christ fait tout ce qu'il peut, et il peut tout, pour protéger chacun de nous, à condition que nous-mêmes, nous nous tournions vers lui, que nous nous servions de son Saint-Esprit, et que nous puissions tenir le coup et repousser le diable en lui disant « Retire-toi, Satan ». C'est ça, mes frères et mes sœurs. C'est cela qui est arrivé au sein de l'Église de Dieu. Nous étions à l'époque un petit groupe, un tout petit groupe. Mais nous avions tous les mêmes pensées, les mêmes idées, les mêmes enseignements. On ne cherchait pas à dire, voilà ce que je pense. On voulait savoir ce que Dieu pense et ce qu'il nous dit dans la Bible. Malheureusement, à travers les siècles, les hommes n'ont pas suivi cette idée. Et de même, dans l'Église universelle de Dieu à l'époque, les gens n'ont pas vraiment cherché en toute chose ce que la Bible disait. Vous et moi, lorsque nous nous sommes fait baptiser, nous avons pris un engagement solennel envers l'Éternel Dieu, de ne jamais nous détourner de lui, de ne jamais nous détourner de la voie qu'il a tracé devant nous, de ne jamais suivre d'autres religions ou suivre les idées destructrices de Satan le diable. Et pourtant, aujourd'hui, voyez où nous en sommes en tant qu'Église de Dieu. L'Église universelle que nous connaissions au début a été détériorée. Elle s'est détournée de Dieu. Elle a commencé à penser comme les païens pensent. Car Satan le diable a réussi à semer la division dans l'esprit des gens. Je sais, je sais fort bien parce que j'étais à Pasadena lorsque Satan a commencé à attaquer déjà et la faculté et le ministère et tous. Certains, y compris des ministres, ont cédé à Satan. Pourquoi ? À cause de cette nature humaine que nous avons tous. À cause de cette nature humaine qui veut avoir quelque chose, qui veut être grand. Écouter la grandeur en ce bas monde ne sert à rien. Ce qui sert à quelque chose, c'est notre humilité devant Dieu. Savoir que nous ne sommes rien, savoir que Dieu nous a amenés pour être quelque chose, pour arriver dans son ministère, pour proclamer l'évangile en ce moment, ensuite pour pouvoir être un jour membre de sa famille divine. Je vous dis, bon nombre d'amis se sont séparés. J'ai perdu pas mal de mes amis à moi, et dans le ministère, et dans l'Église, parce que ces gens-là, et encore aujourd'hui certains, se sont accrochés à cette idée d'être grand, de faire quelque chose qu'on croit c'était eux qui agissaient. Mes frères et mes sœurs, les gens aujourd'hui dans l'Église de Dieu sont scandalisés par ce qui se passe. Et pourtant, à l'époque du Christ, les apôtres étaient aussi scandalisés. Pourquoi ? Notez-le. Jean chapitre 6, versets 60 à 69. Plusieurs des disciples du Christ, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Parce que les paroles du Christ, les gens ne les comprenaient pas. D'abord, ils n'étaient pas disposés à vouloir comprendre, et ensuite, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, mettons. Alors le Christ, sachant, verset 61, en lui-même que ses disciples murmuraient, il a dit « Cela vous scandalise-t-il » Vous savez ce que c'est scandaliser. Il a dit « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter au ciel où il était auparavant ?» Autrement dit, le Christ leur pose des questions maintenant. Et le Christ répète « C'est l'Esprit qui vivifie. » Notez-le, c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie, qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Et pourtant, la plupart d'entre nous aujourd'hui, nous mettons tout notre espoir sur la chair. Les paroles que je vous ai dites, dit le Christ, sont esprit et vie. Comparez esprit et vie avec ce que la chair peut offrir. Ensuite, le Christ ajoute au verset 64, ce sont des versets importants parce que nous devons avoir ces versets dans notre esprit pour tenir le coup contre les accusations de Satan. Ce qui se passe dans l'Église, ce qui s'est toujours passé, c'est parce que Satan a aidé le manipulateur. Le Christ a dit, il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Pourquoi ? Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyait point, et qui était celui qui allait le livrer. Ensuite, le Christ ajoute, c'est pourquoi, dit-il, je vous ai dit ces choses. Regardez voir au verset 66. C'est intéressant, c'est Jean 6, 66. Dès ce moment-là, plusieurs des disciples du Christ se sont retirés et n'allaient plus avec lui. Pourquoi ? Pourquoi tout d'un coup ces doutes ? Pourquoi tout d'un coup être confus, alors qu'au début, lorsqu'ils ont été baptisés, pas baptisés pour ainsi dire, mais lorsqu'ils étaient attirés, ils ont suivi le Christ. Ensuite, au verset 67, nous lisons, le Christ a dit à ces gens-là, il dit, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller à ces disciples-là qui étaient avec lui ? Regardez voir la réponse de l'apôtre Pierre. Pierre avait une réponse que nous devons avoir, vous et moi, absolument à tout instant, près dans l'esprit, proche à notre cœur. Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous ? Voilà. Posez-vous la question. Si vous avez des doutes en ce qui concerne l'Église du Dieu vivant, si vous avez des doutes pour savoir quelle est la bonne Église, si vous avez des doutes pour dire, mais pourquoi tous ces changements ? Posez-vous la question. À qui ? Vers qui irions-nous ? Et Pierre ajoute, il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ça votre force. L'Église de Dieu vivant aujourd'hui a gardé et gardera toujours les paroles du Dieu vivant. Nous n'avons pas changé. Nous ne voulons pas changer à moins que nous soyons dans notre tort. Lorsque vous examinez les paroles du Christ aujourd'hui, dès le commencement, les devoirs de l'Église de Dieu étaient de ne jamais changer les paroles de Dieu, d'avoir toujours à l'esprit les doctrines du Christ pour être membre de son Église. Et Pierre ajoute, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ce que nous avons. Et nous avons cru, dit l'apôtre Pierre, au verset 69. Nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ça, c'est notre guide, mes frères et mes sœurs. On peut certes dire ce qu'on pense. Nous avons tous nos idées, mais nos idées doivent être conformes au désir du Christ. Autrement, ces idées-là, les nôtres, ne valent absolument rien. Si nous, les vrais chrétiens qui sont baptisés, qui croyons en Dieu, qui respectons les paroles du Christ, si nous, les vrais chrétiens, nous tenons fort et nous cessons de raisonner de par nous-mêmes et que nous continuons à vivre comme le Christ nous a montré le chemin, dans ce cas-là, nous ne chancellerons jamais devant les attaques de Satan. La Bible nous révèle que Satan, le diable, a pour but de nous persécuter, de nous éloigner de Dieu, et ensuite que nous commencions à suivre les voies sataniques. La Bible nous encourage également à tenir bon, à respecter les commandements divins, quelles que soient les circonstances. Soumettez-vous donc à Dieu. Débarrassez-vous de vos pensées charnelles, de vos idées, car tous, de par le monde, ont leurs propres idées. Tous ont leur propre philosophie. La seule philosophie qui compte, la seule vérité, c'est celle que Dieu nous révèle dans la Bible. Voilà pourquoi le Christ a dit, soumettez-vous donc à Dieu. Que vous soyez d'accord ou non avec les décisions prises. Si nous faisons ce que Dieu dit, si nous suivons les commandements divins, si nous vivons toujours dans l'esprit soumis au Christ, si nous sommes vraiment membres de ce qu'on appelle l'Église de Dieu, Satan n'aura jamais de force sur nous. Nous pouvons chanceler un petit peu, mais nous ne nous briserons jamais. Le Christ a dit, soumettez-vous donc à Dieu, que vous soyez d'accord ou non pour commencer. Eh oui, comme le Christ a dit, vous ne comprenez pas maintenant, mais vous comprendrez plus tard. C'est ça, si vous ne comprenez pas quelque chose dans la Bible, ne commencez pas à discuter les uns avec les autres. C'est ça qui crée la division. Acceptez ce qui a été dit, soumettez-vous à ce que Dieu dit. Ensuite, la compréhension viendra au moment même où vous en avez besoin. Apprécions, mes frères et mes sœurs, le sacrifice du Christ. Apprécions sa mort pour nos péchés, afin de pouvoir vivre éternellement plus tard, après la résurrection des morts. Mais ce genre de courage, ce genre de détermination demande de la force, demande beaucoup de lutte contre notre nature charnelle et contre les astuces de Satan. Cela demande du courage, cela demande de la détermination, cela demande de la patience, cela demande la foi en Dieu et aux enseignements bibliques. C'est ce que nous ne faisons pas tous. Très peu de gens dans l'Église de Dieu même passent le temps, suffisamment de temps, pour étudier la Bible, pour comprendre, pour chercher, sans se laisser guider par des idées sataniques qui disent, qui nous font comprendre ou croire qu'il y a des phrases qui ne sont pas claires, qu'il y a des contradictions dans les commandements de Dieu. Non, ne croyez pas à ces mensonges-là. Notez encore ce que le Christ a dit dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, c'est là où le Christ a fait sa dernière parole en présence de tous les disciples à l'époque. Regardez voir comment il nous encourage, comment il nous guide. Nous avons besoin de ce genre de compréhension. Jean 17, verset 11. Le Christ a dit, je ne suis pas dans le monde. Il était dans le monde à l'époque, mais il nous donne comment ne pas faire partie de ce monde. Je ne suis plus dans le monde, dit-il. Mais ils sont, les disciples, dans le monde. Je vais à toi, Père. Garde-les en ton nom, ce que tu m'as donné. Alors, le Christ prie pour nous. Le Christ demande à Dieu le Père, garde-les en ton nom que tu m'as donné, et vous faites partie. Notre verset 20. Ce n'est pas pour eux, les disciples qui étaient avec lui à l'époque, que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça comprends-vous et ça comprends-moi. Si nous sommes vraiment famille de l'Église de Dieu, si nous sommes vraiment membres de l'Église de Dieu, la famille du Christ, nous devons savoir que le Christ est notre avocat, notre sauveur. Et le Christ prie pour nous, afin que Dieu le Père nous donne le courage, afin que Dieu le Père arrête les mains de Satan. Donc, je continue, verset 20, pour ceux qui croiront en moi par la parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi, c'est-à-dire vous et moi, soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le Christ leur a donné la gloire à eux. Le Christ nous donne aussi cette même gloire aujourd'hui. C'est ce qui est écrit au verset 22. Il dit, pour que moi aussi, sois en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, ça inclut vous et moi, et que tu m'as aimé. Voyez-vous, on n'a qu'à lire le reste. Mais c'est ça, c'est pour cette raison que nous sommes ici. C'est pour cette raison que nous sommes appelés. Mes idées à moi ne valent rien, à moins qu'elles soient fondées sur les enseignements bibliques. Vos idées à vous, vos discussions ne valent rien, à moins que vos arguments, si arguments aient, soient fondés sur la vérité qui nous est révélée dans la Bible. Et le Christ a dit au verset 26 de ce chapitre, il dit, « Je leur ai fait connaître ton nom. » Est-ce le cas? Si nous sommes unis en Christ, ça c'est vrai pour nous. Autrement, ce n'est pas le cas. « Afin que l'amour dont tu m'as aimé, dit-il au verset 26, soit en eux comme je suis en eux. » Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, il faut comprendre cela. Avant de trouver des fautes les uns chez les autres, afin de se livrer à des chicaneries, avant de dire « voilà ce que je pense », d'abord, acceptez les paroles du Christ. Oubliez cet amour de soi. Oubliez cette hostilité. Sachez que nous ne sommes rien et que c'est toujours le Christ qui nous guide. Que si nous faisons notre part, le Christ sera toujours notre guide. C'est ça qui compte. C'est ça qui nous donne la force. C'est ça qui nous donne vraiment le vrai espoir pour être sauvé. Nous sommes toujours bénis lorsque nous faisons ce que le Christ nous recommande. La véritable Église de Dieu est le corps du Christ. Et ce corps se compose de plusieurs membres. Comme l'apôtre Paul le déclare du reste de l'an 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Écoutez, ça, c'est la vérité pure et simple. Le corps, dans le corps, nous avons tous des membres, mais un membre ne peut pas vraiment se disputer avec un autre membre. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est ce que nous faisons dans l'Église de Dieu lorsque nous commençons à nous accuser les uns les autres. 1 Corinthiens 12, verset 12 aussi, nous lisons, « Car comme le corps est un, et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. » Entendez-vous cela ? Ne forment qu'un seul corps. Aussi en est-il du Christ. Ayez toujours, mes frères et mes sœurs, en tête la raison pour laquelle Dieu vous a appelés. Pourquoi vous êtes dans l'Église ? Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous serons toujours nos idées humaines, d'accord, mais notre but principal, c'est de servir Dieu, de faire sa volonté, de faire connaître aux gens la raison pour laquelle le monde existe, les gens existent, et ce que l'avenir nous réserve à nous tous. Nous sommes ici pour proclamer l'Évangile. C'est ça l'Évangile, la bonne nouvelle du retour du Christ. Dès ce moment-là, le monde entier comprendra pourquoi nous sommes nés. Aujourd'hui, très peu le comprennent. Aujourd'hui, très peu comprennent le sens de la Bible. Mais lorsque le Christ sera ici, les gens comprendront vraiment pourquoi ils sont nés et ce que Dieu attend de la part de chacun de nous. Les 10 commandements sont la base du christianisme. Les 10 commandements n'ont jamais été abolis. Et pourtant, ils se trouvent dans l'Ancien Testament. C'est normal puisque l'Ancien Testament fait partie du Nouveau Testament. La Bible n'est pas divisée, ce sont les hommes qui la divisent. Voilà pourquoi je vous répète à nouveau, l'Église de Dieu doit être un. L'Église de Dieu doit avoir comme chef le Christ, le même Christ qui était le sauveur des nations israélites. Si nous, nous autres membres de l'Église, nous nous séparons de ce corps pour une raison ou pour une autre, dans ce cas-là, nous nous séparons du Christ. Ça, c'est la base. Avant de dire, voilà ce que je pense, prenez cette Bible, ouvrez cette Bible, lisez-la à genoux et acceptez ce que Dieu déclare, ce que Dieu nous dit. Dans Matthieu 28, versets 28 à 20, nous lisons, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà la mission de l'Église. Voilà la mission des ministres qui proclament l'Évangile de par le monde. Et nous devons tous ensemble, main dans la main, contribuer à cela. Et le Christ nous dit au verset 20, « Enseignez-leur, c'est votre devoir, c'est mon devoir, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dit-il, je suis avec vous tous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais vous, ce sont des paroles fortes, ce sont les paroles du Christ. Le Christ sait ce qu'il fait. Le Christ ne ment pas. N'ayez jamais peur, ne craignez jamais l'adversaire. Mais d'autre part, luttez contre votre nature humaine, comme moi, je dois lutter, pour ne pas trouver des raisons pour me séparer du corps. Le véritable chrétien cherche avant tout à servir. C'est ça le but de la vie, servir. Nous ne sommes pas appelés pour être sauvés. Non, le salut est une récompense. Mais nous sommes appelés pour servir. C'est notre première mission. Cela doit être notre but. Le véritable chrétien a pour mission d'être un disciple du Christ à tout point de vue. Le véritable chrétien aime son prochain, y compris son ennemi. C'est ce que le Christ déclare à travers les enseignements qu'il nous a donnés, à travers les pages de la Bible. Lisez le sermon qu'il a donné sur la montagne. Il est triste de constater que le christianisme, aujourd'hui, a perdu la raison de son existence. L'égoïsme, le matérialisme dominent le cœur des hommes. Les chrétiens aujourd'hui consacrent leurs efforts principalement à gagner la vie et non pas à savoir, à apprendre comment vivre. C'est ce qui compte. Comment vivre est beaucoup plus important que savoir comment gagner sa vie. Ici, dans l'Église de Dieu, nous cherchons à enrichir les autres et non pas, premièrement, à enrichir nous-mêmes. L'Église de Dieu a pour mission d'enseigner la voie véritable du christianisme. Nous ne changeons rien, nous ne voulons rien changer car nous voulons toujours être fidèles à Dieu. Nous voulons grandir dans notre compréhension sans jamais changer quoi que ce soit. Le Nouveau Testament, je répète, n'est pas différent de l'Ancien Testament. Les deux testaments nous sont donnés pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu et que cette volonté puisse vraiment être notre guide dans tout ce que nous faisons. En ces derniers temps, l'Église de Dieu s'est divisée par des accusations que Satan fait au sein de l'Église de Dieu. Satan sera toujours à son poste. Satan fera toujours tout ce qu'il peut pour semer la division entre nous. Soyez bons, tenez bon. Nous n'avons pas encore vu la fin, je vous dis franchement, parce que comme je vois aujourd'hui, les choses vont se gâter de plus en plus. Les attaques de Satan vont se multiplier. Donc ne cédez pas aux attaques de Satan. Tenez bon. Nous ne sommes pas appelés, je le répète, pour être sauvés, mais pour aider les gens à comprendre la voie du salut. Le salut est une récompense que Dieu nous donne. Le salut n'est pas vraiment quelque chose pour lequel nous devrions travailler. Nous devrions travailler pour aider notre prochain, pour l'aimer comme nous-mêmes, afin que lui aussi puisse arriver au but. C'est ça, je le répète, le but de l'Église de Dieu. Dans Marc, chapitre 16, versets 15 à 16, nous lisons, le Christ a dit, « Allez par tout le monde. » C'est ce que nous faisons. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voyez-vous, à cette époque-là, on n'avait pas la force, techniquement parlant, pour faire cela. Aujourd'hui, nous avons des inventions fantastiques qui nous permettent de parcourir le monde, de proclamer l'Évangile par la voix de la radio, de l'Internet, de la télévision. Autrement dit, nous avons aujourd'hui les moyens pour accomplir cette mission. Il dit, allez de par le monde, prêchez la bonne nouvelle, c'est ce que nous faisons. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà la condition. Et c'est là ce que nous faisons en tant que membres de l'Église de Dieu. Nous avons tous une responsabilité en cela. Certains, comme nous, comme moi, nous prêchons. D'autres qui contribuent manuellement à manipuler ceci ou cela. De toute façon, ce qui compte vraiment, c'est qu'en tant qu'équipe, nous fassions notre devoir, que nous l'accomplissions. Écoutez, mes frères et mes sœurs, considérez la vie des apôtres. Considérez la vie de l'apôtre Paul. Regardez dans la Bible comme il a souffert. C'est incroyable. Il a souffert, il a tenu le coup. Il n'a jamais douté du Christ. Il ne s'est jamais détourné de la vérité. Même lorsqu'il a été persécuté jusqu'à la mort, pour ainsi dire, Paul ne s'est pas écarté du Christ. C'est ce que nous devons faire. Paul ne s'est jamais détourné de sa mission. C'est ainsi que nous devons agir. Vous savez, ça me fait de la peine, ça me brise le cœur, car après 50 ans, lorsque Dieu m'a appelé pour pouvoir proclamer l'Évangile aux francophones, je vois encore aujourd'hui que nous nous disputons parfois pour des choses qui sont si peu importantes, pour des choses qui nous flattent l'ego, pour la propre gloire humaine. Ne cherchez pas votre gloire. Cherchez la gloire de Dieu. Cherchez à assurer tout le monde que Dieu aime nous tous, que nous-mêmes, nous devons à notre tour aimer tout le monde, que nous devons vraiment aimer notre ennemi et l'aider même si nous sommes persécutés par lui. Paul ne s'est jamais détourné de sa mission. Nous devons en faire de même. Il a travaillé dur pour établir l'unité au sein de l'Église. L'apôtre Paul nous a montré le chemin. Nous a montré le chemin et nous a expliqué ce qu'est le but de la vie. Ce que nous devons faire nous-mêmes tous afin de pouvoir un jour hériter la vie éternelle. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, dans les sermons que je fais chaque semaine, je dis ces choses, je répète ces choses. Les membres de l'Église de Dieu, francophones surtout, reçoivent ces sermons. Ceux qui ne sont pas dans l'Église ne les reçoivent pas. Mais aujourd'hui, je répète, dans ce sermon que j'adresse à vous tous, je voudrais que vous puissiez savoir que vous avez accès à tous les sermons que nous faisons à Charlotte, que ce soit en français, que ce soit en anglais ou dans d'autres langues que nous prêchons. Ayez ce courage de maintenir bon, de tenir bon. Ayez ce courage d'être sûr que Dieu est avec vous lorsque vous faites sa volonté. La seule force que vous avez, c'est la force que Dieu vous donne. Et il est grand temps que vous puissiez vous comprendre cette vérité et que vous puissiez vous suivre ce chemin et que vous puissiez vous vraiment être appelé enfant de Dieu. Enfant, pour le moment, engendré. Plus tard, après la résurrection des morts, enfant né de Dieu. L'unité, nous en avons besoin. L'unité se forme lorsque nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. Ayez unité en vous-même. Respectez les uns les autres. Notez ce que l'apôtre Paul, qui a été persécuté, qui a été ridiculisé, regardez comment il parle de l'unité. L'unité qui est indispensable dans l'Église de Dieu. Je cite Éphésiens 4, versets 1 à 6. Éphésiens 4, 1 à 6. Paul dit, je vous exhorte, moi le prisonnier, car à l'époque il était prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vocation qui nous a été adressée n'est pas pour diviser, n'est pas pour diviser les membres, n'est pas pour dire des choses en disant « voilà ce que je pense », mais d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Comment ? Verset 2, Éphésiens 4, 2. en toute humilité et douceur. Regardez voir cette force dans ses paroles. Humilité et douceur. Et pourtant, humilité et douceur forment une force. Avec patience, de même. La patience est difficile, mais ayons patience. Et ayons patience. Vous supportant-il les uns les autres avec charité. Charité, c'est amour. Alors, voilà, si nous pourrons nous supporter les uns les autres avec amour, tout sera réglé entre nous. Nous ne pouvons pas nous séparer du corps, mes frères et mes sœurs. Car lorsque nous nous séparons du corps, nous sommes perdus. Continue. Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Ensuite, l'apôtre Paul nous fait comprendre où est l'unité. Il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Mettez-vous à genoux, mes frères et mes sœurs, étudiez ces paroles, répétez ces paroles, demandez à Dieu de vous aider à comprendre ces paroles. Et Paul ajoute au verset 5, Éphésiens 4, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Voyez-vous, c'est encore l'affirmation totale dont nous avons besoin pour ne pas être confus. Il y a un seul Dieu, verset 6, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Croyez-vous à cette vérité? Si tel est le cas, agissez en conséquence. Prenez cette Bible. Étudiez-la sans y chercher des divisions, des contradictions. Les divisions que nous connaissons aujourd'hui nous viennent parce que les gens tordent la vérité, parce que les gens disent « voilà ce que je pense ». Dieu ne s'intéresse pas à ce que vous pensez. Dieu s'intéresse à ce qu'il a dit dans la Bible et il veut que vous puissiez vous-même, en toutes occasions, suivre la voie qu'il a tracée devant nous. Remercions Dieu chaque jour de tout notre cœur de ce que nous avons. Remercions Dieu de cette compréhension que nous avons de la vérité biblique. Soyons lui reconnaissants pour tout ce que nous avons, car nous ne méritons pas ce que nous avons. Nous méritons de la mort, et voilà que nous avons la promesse de la vie éternelle. Dieu est miséricordieux, soyons nous-mêmes miséricordieux. Dieu est bon, soyons nous-mêmes bons. Dieu est amour, ayant toujours de l'amour pour tout le monde, y compris nos ennemis. Oublions les mésententes, oublions les calomnies, oublions les accusations dont nous sommes parfois victimes. Au lieu de voir le mal autour de nous, voyons le bien, voyons la présence du Christ, apprécions tout ce que la Bible nous recommande et nous donne comme promesse. Ayons les yeux fixés sur le Christ. À tout moment, soyons miséricordieux comme le Christ lui-même est miséricordieux, comme Dieu le Père est miséricordieux. Notez du reste ce que le Christ dit dans Deutéronome chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Voyez-vous, c'est cette même recommandation que Dieu nous donne dans Michée chapitre 6, verset 8. Nous disons, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. c'est que tu pratiques la justice divine, que tu aimes la miséricorde comme Dieu nous-mêmes aime et pratique la miséricorde à notre égard, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Gardez ces trois conditions, que nous pratiquions la justice, que nous aimions la miséricorde et que nous marchions humblement avec Dieu. Pour être le peuple de Dieu, nous devons marcher main dans la main avec Dieu. Nous devons suivre les pas du Christ. Le Christ était humble en tant qu'être humain sur cette terre. Nous devons être en notre tour. Le Christ connaissait la raison de l'existence et il nous l'enseigne. Nous devons aussi la connaître et l'enseigner autour de nous. Le Christ a donné sa vie pour que nous puissions tous partager sa gloire. Nous devons, en tant que ses disciples, agir de même. Donner le bon exemple. Ne pas commencer à chercher la chicanerie entre nous-mêmes ou bien des raisons pour ne pas être d'accord. Personne n'est parfait. Personne n'est capable de comprendre tout. Mais si nous tous, main dans la main, nous obéissons au commandement de Dieu et que nous marchons sans nous blâmer les uns les autres et que nous acceptons ce que la Bible dit sans contredire les idées par nos propres pensées ou par les accusations de Satan, dans ce cas-là, nous serons toujours, et je répète, toujours vainqueurs. J'ai vu dans ma vie beaucoup de gens qui sont venus et qui sont partis au sein de l'Église. Ils avaient toutes les raisons pour y rester. Ils avaient la compréhension, mais parfois l'amour propre est plus fort que nos désirs d'obéir à Dieu. Ils ont préféré la voie charnelle, la voie physique, pour pouvoir agrandir leur propre ego, pour pouvoir réussir financièrement par là, pour pouvoir être honoré par les autres, au lieu d'être honoré par Dieu, au lieu d'être aimé par Dieu. Le Christ ne veut pas que nous soyons hypocrites. Et pourtant, si nous, les véritables chrétiens, faisons comme le reste du monde fait, nous sommes et nous serons hypocrites. Dans Matthieu chapitre 6, verset 15, 5 à 15, nous lisons, et je répète, et je lis en partie, « Lorsque vous priez, regardez voir, là encore, il nous dit comment prier. Lorsque vous priez, dit-il, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Non, vous ne priez pas pour être vus des hommes. Vous priez pour être entendus par Dieu. Il dit, je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, dit-il verset 6, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie Dieu qui est dans le lieu secret, et Dieu, le Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Voyez-vous, c'est simple, on peut comprendre, même un enfant peut comprendre. Il dit, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Le Christ nous donne les exemples pour savoir comment vraiment prier. Ne leur ressemblez pas, dit-il, car votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Mais, dit-il, voici comment vous devez prier. Et ensuite, il nous donne ce que nous appelons la prière modèle. Dans cette prière modèle, là encore, ce n'est pas pour répéter chaque mot, mais pour répéter les idées, répéter les enseignements. Il dit, quand tu pries, dit-il, ensuite il nous donne comment commencer, comment continuer et comment vraiment mettre un accent, mettre l'accent sur les devoirs principaux. Il dit, Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voyez-vous, c'est simple, on ne peut pas chercher des arguments. On ne peut pas dire non, je ne peux pas aimer telle ou telle personne parce que cette personne-là ne m'aime pas. Ou bien cette personne-là m'a fait du tort. Quel que soit le tort qu'on vous fait, vous devez vous pardonner à ceux qui vous ont offensé. Alors, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Ne nous induis pas en tentation, dit le Christ. C'est ce que nous devons dire dans nos prières. Mais délivre-nous du malin. Voyez-vous, là encore, le malin, Satan le diable, sera toujours là pour confondre nos esprits. Car c'est à toi, dit-il, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Le Christ ajoute ensuite au verset 14, si nous pardonnons aux hommes les offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, ajoute le Christ, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez-vous, aujourd'hui, dans ce monde plein de divisions, le Christ n'est pas respecté. Ses paroles ne sont pas entendues. Dieu est tout-puissant. Si Dieu pardonne nos péchés, quel droit avons-nous pour ne pas pardonner aux autres? Demandez à Dieu de vous donner la force de faire sa volonté, de ne pas chercher à discuter avec sa volonté. Je vous rappelle que, d'après la Bible, les jours qui précéderont le retour du Christ, et je parle maintenant de ce moment-ci, seront les pires que ce monde n'ait jamais connu. Car les attaques de Satan se multiplient, car Satan le diable voit qu'il n'a pas beaucoup de temps devant lui, il est condamné. Les attaques de Satan, ces accusations vont se multiplier, mais nous, les véritables chrétiens, devons rester fermes. Nous devons toujours être chrétiens. Nous devons toujours agir en tant que disciples du Christ. La vie que le Christ a menée sur cette terre n'était pas une vie facile. Au contraire, il a été condamné, il a été persécuté, il a été accusé. Mais le Christ a dit « Pardonne-leur ». Leurs offenses, car ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Dans Jean chapitre 15, versets 10 à 12, le Christ ajoute, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Le Christ dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Joie. Le Christ parle de joie alors qu'il est persécuté. Il dit, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Nous sommes, nous, les chrétiens, les disciples du Christ, joyeux. Nous devons être joyeux malgré les persécutions. Nous devons avoir toujours le sourire aux lèvres et dans le cœur. Nous devons pouvoir dire que je sais que Dieu me protège. Je sais que Dieu est avec moi. Le Christ ajoute, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. » Regardez-moi, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ce « comme » qui fait toute la différence. Je vous prie, regarde de vous. Combien y a-t-il de gens en ce bon monde qui appliquent, qui mettent en pratique ces paroles? Il y a une grande différence entre la joie physique et la joie dont le Christ parle. Nous devons, nous, les véritables chrétiens, avoir le cœur joyeux. Ne pas chercher des calomnies, car ce faisant, nous ne pouvons pas être joyeux. Les plaisirs physiques, les plaisirs charnels, sont éphémères, tandis que la joie est éternelle. Si nous avons l'Esprit du Christ en nous, nous sommes et nous serons toujours joyeux. Nous chercherons avant tout comment rendre notre prochain aussi joyeux. La différence entre la joie et les plaisirs charnels est énorme. Nous devons, nous, avant toute chose, être joyeux comme le Christ nous le recommande, et non pas comme le monde cherche les plaisirs charnels. Encore, je répète, jetez un regard autour de vous. Regardez où sont les nations en cette ère spatiale. Regardez la condition de ceux qui étaient riches et qui ont tout perdu. Regardez les maladies qui se multiplient aujourd'hui de par le monde. Regardez la confusion au sein de ce que nous appelons religion. Personne, ou presque, ne cherche la véritable religion. Personne, ou presque, ne cherche à vraiment être riche aux yeux de Dieu. De par le monde, aujourd'hui, des millionnaires deviennent presque des mendiants. C'était prophétisé. Le Christ a dit que si nous ne faisons pas sa volonté, si nous nous en éloignons, que nous aurons des jours extrêmement difficiles et que même Satan, le diable, voit mettre fin à la vie de plusieurs, de ceux qui comprennent et qui ne veulent pas obéir. Avant de terminer, laissez-moi citer encore l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Il dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » Et pourtant, c'est ce que le monde fait. « Contentez-vous de ce que vous avez. » Car Dieu lui-même a dit, regardez-moi cette phrase, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Voilà notre garantie dans l'Église de Dieu. Chacun de nous, quel que soit le pays que nous habitons, nous avons de Christ qui nous dit, « Je ne vous délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et maintenant, je vous prie, examinez-vous-même. Mettez-vous à genoux. Dites à Dieu, montre-moi mes faiblesses. Montre-moi mes fautes. Quelle que soit votre nationalité, votre race, soyez de véritables frères. Aimez-vous les uns les autres. Et pardonnez-vous toujours, quelles que soient les offenses commises. Nous avons tous le même appel, la même mission, les mêmes devoirs, les mêmes responsabilités. Nous avons la recommandation d'aller jusqu'au bout avec courage, avec force, main dans la main, avec le Christ. Au début, dans l'Église de Dieu, nous chantions tous ensemble, quelle joie de se retrouver ensemble, quelle joie de vivre et de prier ensemble. En tant que de véritables chrétiens, ce commencement doit continuer aujourd'hui. Je vous parle avec la joie dans le cœur en disant quelle joie de nous retrouver tous ensemble dans la véritable Église de Dieu.